Try again.
Salut les petits amis du jeu vidéo, c'est Nelly, vous êtes dans Try Again, seconde partie de Génération Press Start. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Vince et Clo. Nous on se retrouve aujourd'hui dans une partie un peu plus mystique, puisqu'on va décortiquer, ou plutôt Martin nous a proposé de décortiquer Secret of Mana sur SNES. Bonsoir Martin.
Bonsoir Nelly.
Et puis évidemment, comme d'habitude, il n'est pas seul, ils ont travaillé aussi sur ce jeu. Il y a Lionel qui va s'occuper des Action RPG.
Bonsoir.
Et puis il y a Ellie qui s'occupera de la partie questions des auditeurs et qui nous parlera de Saiken Densetsu 3.
Exactement. Salut les loulous.
Alors, on est dans la dynamique, donc côté un peu mystique aujourd'hui. On commence tout de suite par une chanson. Vous allez voir, les titres sont très poétiques. La première chanson, c'est Fear of the Heavens, qui a été composée par Kikuta Hiroki.
Oui, et c'est en fait la musique que tu as quand tu allumes le jeu, quand tu démarres la console, c'est ça, c'est le début de jeu.
D'accord, donc ça va être ça va
parler aux gens tout de suite, c'est un peu plus calme que ce qu'il y aura un peu plus tard dans la soirée. Il y a des musiques calmes et des fois un peu plus brutales ce soir.
Voilà, de l'action et de la poésie. C'est parti, à tout de suite.
M57 Radio.
Try again.
Voilà, entrons tout de suite dans la magie de la mana, dans Secret of Mana. Alors, c'est pas le secret de Manana, Ellie, hein. Secret of Mana, d'accord.
J'avais mal lu ça.
Bah, alors, du coup, pour ton sujet, ça va peut-être poser problème, non, tout à l'heure.
Tu t'es pas planté, c'est bon.
Ça parle pas de ça.
D'accord. Alors, Lionel, si j'ai bien compris, Secret of Mana est un action RPG.
Voilà. Donc je vais aborder aujourd'hui ce genre particulier qui est le action RPG, ou abrégé ARPG, autrement dit le jeu de rôle d'action. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est le RPG dans le monde du jeu vidéo. Généralement, on désigne par RPG un jeu vidéo qui reprend les bases du RPG papier, c'est-à-dire souvent la création de personnages. Bon, des fois assez limitées ou carrément absentes, souvent pour des questions de coller à l'histoire ou des fois même maintenant dans les RPG ou cinématiques. Qui sont faites en image de synthèse avec un personnage prédéfini. Donc si on créait son personnage, on collerait plus à ce qui est montré après dans le jeu. Donc surtout la gestion de l'équipement. Donc une bonne partie du RPG se joue dans l'inventaire, hein. J'en avais déjà parlé un peu
durant FF7.
Durant FF7, hein, c'est clair qu'un bon RPG en général, on passe presque, j'irais aller 20% de son temps dans l'inventaire à changer son équipement, à optimiser ses personnages.
C'est souvent ce qui me saoule d'ailleurs. Voilà. Parce que des fois les systèmes sont pas faciles.
Et encore, la principale caractéristique du RPG, c'est l'évolution des personnages avec un système d'expérience.
Oui.
Voilà. Donc je pense que pour moi, ça c'est les trois critères, on va dire, qui déterminent si un jeu est un RPG ou pas, avec certains critères qui sont des fois un peu éludés, comme je l'ai dit, souvent la création de personnages qui...
Souvent, pour les actions RPG console, la création de personnages, tu l'as pas, ils sont imposés, tu les choisis.
Pour les actions RPG, là je parle du RPG, hein, voilà. Parce que je décrivais un peu le style du RPG. Qu'est-ce que donc le action RPG? Dans le, dans les RPG traditionnels, les phases de combat et d'exploration sont généralement gérées à part. À part exception, mais en général, on a une phase de combat qui est différente, qui se gère dans un gameplay un peu différent que la phase de déplacement.
Tout à fait.
Et en fait, en opposition donc au RPG japonais classique, on retrouve le action RPG. Donc avec les différents éléments du RPG, comme la gestion de l'expérience, l'équipement, éventuellement création de perso, mais ça, comme dit, c'est même dans les RPG aujourd'hui, ça devient optionnel. Mais cette fois-ci, les combats et exploration sont gérés en temps réel. Et les ennemis sont près de l'environnement du personnage et appuyer sur les différents boutons permet de les attaquer à l'aide d'armes et de magie. Donc en fait, on a une action en temps réel dans le même univers que le jeu. Donc on se déplace sur une map et sur cette map se trouvent les ennemis et on peut directement aller taper sur ces ennemis sans qu'on passe à une phase de combat.
On n'a pas besoin de leur donner des ordres et de programmer les ordres et ensuite les ordres sont faits tout seuls.
Un comparatif
quoi.
Comme un jeu comme Final Fantasy VII, tu te trimbales sur la carte et d'un coup, oh, il y a un combat qui arrive.
Il y a un combat aléatoire où il n'y a pas d'ennemis sur la carte, on sait pas comment ils arrivent,
mais
ils arrivent. Il y a une
transition et d'un coup, tu arrives dans une phase de combat. Alors que là, non, tu restes tout le temps avec la même vue.
Voilà. Donc c'est du temps réel en fait.
C'est du temps réel. Donc il ne faut pas confondre cependant action RPG et jeu d'aventure, parce qu'il est parfois difficile de faire la différence. Bon, on s'accordera quand même sur le fait qu'un jeu d'action-aventure normalement ne proposera pas de gain d'expérience principalement. C'est ce qui fait pour moi la différence. Un Zelda par exemple est un jeu d'action-aventure, même s'il reprend beaucoup d'éléments d'un action-RPG, parce que on a quand même de l'équipement, des objets, des choses
mais on ne pourra pas gagner de niveau en tuant 100 000 fois le même ennemi.
Voilà, on pourra, parce que les gens disent oui mais on gagne des cœurs ou des quarts de cœur
en tuant des ennemis spécifiques,
en tuant les boss, donc c'est un peu l'évolution face aux boss, mais elle est très limitée. Et après, je veux dire, une fois qu'on a atteint son on peut pas.
Oui, les cœurs, ça concerne que le niveau de vie. Alors peut aussi dans les RPG, la force,
l'habilité, la vitesse.
C'est ça.
Ça m'amène à une question. Il y a des jeux, les Castlevania, les derniers, c'est-à-dire sur Nintendo DS et aussi sur GBA. Là, tu gagnes des niveaux d'expérience plus tu tues d'ennemis. Par contre, c'est pas des RPG,
c'est du action RPG clairement. Pour moi, c'est pour moi les derniers.
C'est
pour moi les derniers.
C'est des Metroidvania en plus.
Ouais. C'est aventure action plutôt pour moi. Parce que tu as moins de dialogue.
Mais le fait d'avoir, on retrouve tout. On retrouve quand même tous les éléments du action RPG quoi. Ouais. Alors après, action RPG, c'est pas forcément en 3D vu de dessus ou vu de dessus. Un Castlevania en 2D. Pour moi, ça reste un action RPG. Hein. Ça rentre clairement dans la catégorie action RPG.
Ça dépend de Castlevania. Il y en a vraiment, c'est de la plateforme pure.
Pas tous les Castlevania, mais comme tu dis, les Castlevania sur DS qui ont eu lieu, t'as un système d'évolution, des armes, t'as un système d'équipement, t'as un système de points d'expérience.
En fait, à partir du moment où ils ont mis les points d'expérience, on est passé à des jeux qui
ressemblent plus à des
RPG. Ce qui d'ailleurs était une bonne idée, je trouve.
Voilà. Donc, de même, la frontière est parfois légère entre le RPG et le action RPG, puisqu'il est des fois difficile de distinguer. On va par exemple prendre l'exemple du Final Fantasy XII où les combats en fait les ennemis sont visibles à la carte, sur la carte. On a en fait on va dire une partie des éléments du action RPG, sauf que à la différence d'un RPG, on passe quand même dans une phase de combat, mais la phase de combat reste, la transition ne se fait pas avec un écran, on reste dans le même moteur de jeu, y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. Par contre, quand on est en phase de combat, on a le mode un mode active time battle qui fait qu'on reste quand même avec les éléments caractéristiques du RPG. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'action réaction, c'est pas quand on appuie sur le bouton qu'on donne un coup d'épée quoi, c'est on donne un ordre à son personnage comme disait Nelly et il va exécuter parce qu'ils ont justement un peu dynamisé les phases de combat, mais c'est pas du j'appuie sur le bouton, je tape. Donc pour moi, c'est ça la frontière en fait qui fait que Final Fantasy XII reste un RPG et pas un action RPG, devient quand même un action RPG quoi. Mmh. En général, on peut même dire que le RPG est une sous-catégorie en fait du genre hack and slash. principe généralement donc le hack slash qui peut lui-même regrouper les actions RPG mais également d'autres certains beat them all comme par exemple je citerai Knight of the Round qui est un hack and slash puisque voilà
pour de Capcom avec un système d'expérience
hack and slash qui en gros ça peut se traduire par taillader et trancher donc en gros c'est tout jeu qui où en gros vous avez un personnage qui tape avec son épée et qui et découpe du monstre à tout va quoi donc on a aussi des jeux d'action aventure des jeux d'action comme Devil May Cry ou God of War ou des choses comme ça qui font aussi partie de cette catégorie des hack and slash.
Eh bien moi je fais le vœu d'écouter une musique. On va s'écouter A Wish et What the Fo Was To Me. Je suis très nulle en anglais mais c'est pas grave.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Sur M57, toujours dans Try Again. Je vous propose, après cette jolie, magnifique musique, de rentrer dans notre versus mode avec Martin, toujours pour parler de Secret of Mana sur SNES.
Exactement. Alors moi, je vais commencer par revenir sur les deux musiques qu'on a entendues. D'abord, c'est le thème qu'on pouvait entendre à Polera, en français. Et après, on a pris un canon, on s'est transporté avec les balages canons, et on est arrivé au pays. Et c'est des musiques très calmes, mais que j'adore vraiment. Donc voilà, j'espère que j'ai pas endormi personne ce soir, jusqu'à présent, avec les musiques que j'ai sélectionnées. Ça bougera un peu plus après. Et voilà, donc avant de réellement parler de Secret of Mana, le jeu, je vais devoir parler de la saga en général, qui en japonais s'appelle Seiken Densetsu. J'en avais déjà rapidement parlé durant l'émission sur Final Fantasy VII, et je vais expliquer. Enfin, et à mes yeux, c'est important de parler de la saga dans son ensemble pour comprendre pourquoi Secret of Mana a tant marqué les gens, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'au Japon, on a eu un jeu qui s'appelle Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden sur Game Boy en 1991, qui après a été porté toujours en 91 aux États-Unis sous le nom de Final Fantasy Adventure, et qu'on a eu en Europe sous le nom de Mystic Quest, qui correspondait en parallèle à la sortie de Final Fantasy Mystic Quest sur Super NES en Europe. Ce qui veut dire qu'en Europe, on a eu droit à deux jeux qui s'appelaient Mystic Quest, un sur Game Boy, un sur Super NES, à peu près même période, seulement c'était tous les mêmes jeux. Il y en a un, il était fait par Square États-Unis, et l'autre par Square Japon. Il y en a un, c'était une licence, enfin un spin-off de la série Final Fantasy, alors que l'autre, eh ben, c'était le premier jeu de la série Seiken Densetsu. Ok ? Parce que là, j'ai perdu personne.
Ouais. Non, mais c'est bizarre, hein, cette façon de faire. Hein.
Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que les Japonais, ils ont eu droit à Saiken Densetsu 2 sur Super Famicom, que ensuite, les Américains ont eu le droit sur Super NES en tant que Secret of Mana, et qu'on a eu en Europe en tant que Secret of Mana. Donc, en fait, Secret of Mana est le deuxième jeu de la série, et non pas le premier. Parce que pour beaucoup de gens, en fait, ils croyaient que c'était ça. Alors qu'en fait, le premier, on l'a vu sur Game Boy, mais avec un autre nom.
Voilà, c'est ça, parce que c'est le premier à porter le nom Secret of Mana, enfin avec ce mana.
En fait, le premier à faire apparaître le terme mana dans les noms de jeux. Ensuite, les Japonais ont eu droit en 95 à Saiken Densetsu 3, donc le troisième opus, et qui est celui-là, par contre, n'a été porté nulle part ailleurs sur aucune autre plateforme et jamais traduit. Ok.
Malheureusement.
Suite à ça, sur PlayStation, on a eu Saiken Densetsu Legend of Mana en 99, que les Américains ont eu, mais nous, en Europe, on l'a pas eu.
Okay. D'accord, donc nous on est très pauvres dans la mana,
on a eu les deux premiers, puis ensuite on n'a pas eu le troisième, on n'a pas eu le premier spin-off. Après, en 2000.
Et pourquoi ? Tu sais pourquoi ça n'a pas marché chez nous ?
J'en parlerai plus tard.
D'accord.
Donc après, en 2003, ils ont fait une sorte de réédition du tout premier qu'on a vu sur Game Boy Advance, où ils l'ont retravaillé graphiquement, ils ont mis d'autres choses. Donc là, ils l'ont renommé Shinyaku Saiken Densetsu. Donc lui, sur GBA, on l'a eu en Europe, en France, au Japon, aux États-Unis, un peu partout. Et là, on l'a eu en tant que Sword of Mana. Donc en fait, on nous ressortait le même jeu plus de 12 ans après. Enfin, ouais, 10 ans après chez nous, mais remanié. Ensuite, sur DS, en 2006, on a eu Saiken Densetsu DS Children of Mana, qui chez nous était simplement appelé Children of Mana. Donc là, le nom Mana est toujours récurrent chez nous en Europe. En 2006, les Japonais ont eu droit sur téléphone portable à Saiken Densetsu Friends of Mana. En même temps, en 2006, ils ont eu droit à la réédition de plusieurs autres jeux, donc c'était à mon avis pour faire un peu la promotion autour de toute la série Saiken comme ça. En 2006, il y a aussi eu Saiken Densetsu 4 sur PlayStation 2, qui lui est sorti en Corée, au Japon, et aux États-Unis, mais pas en Europe. Et le nom américain était Dawn of Mana. Donc on avait toujours le terme Mana qui revient. Et le dernier en date sur DS, Saiken Densetsu Heroes of Mana, qu'on a eu en Europe en tant que Heroes of Mana.
Et à chaque fois, c'est des suites les uns des autres ou c'est des histoires qui divergent ?
Alors justement, en fait, il y a un élément récurrent à tous ces jeux, c'est l'épée Mana, la légende autour de Mana. Mais comme dans d'autres séries RPG comme les Final Fantasy ou les Breath of Fire, il n'y a jamais de continuité directe.
D'accord.
Tu as toujours en fait le fait de la légende Mana, l'épée Mana, l'arbre Mana, où en gros, si tu veux, ben le héros, ça va être souvent un orphelin, ou son père, ça a été un ancien chevalier Mana, donc il pourra porter les mêmes Mana, et sa mère, c'était forcément la femme du héros, qui à la fin, comme toutes les femmes comme de la série, se transforme en arbre Mana. C'est un gros spoiler que je viens de faire, mais c'est le cas.
Donc ça veut dire qu'on a été un peu lésé, mais qu'on peut quand même s'en sortir, puisque c'est pas des suites directes les uns des autres, donc on peut quand même...
On peut comprendre un petit peu de ça. Donc moi, si je voulais vraiment insister sur ce point de vue-là, c'est qu'il y a eu plein de rééditions autre chose, mais pour comprendre que dans l'ensemble, en Europe, on n'en a eu que quelques-uns, et que celui-là, c'est le premier qui est sorti sur console de salon, même partout ailleurs, et donc il a réussi à marcher. Il a réussi à marcher pour différentes raisons. Ben, le jeu à 3, alors qu'avant, sur Game Boy, tu jouais seul.
Ah, ça, c'est génial.
Et ils ont remodifié différents... Enfin, ils ont encore changé pas mal de trucs. Donc voilà, moi, je trouvais ça important de vraiment montrer la série dans son ensemble pour comprendre la numérotation et de quel jeu on parle.
Enfin, comprendre, c'est un bien grand mot, parce que là, franchement, c'est quand même assez complexe, quoi.
Entre le 3 et le 4, il s'est quand même passé 7 ans.
Ouais, c'est
ils ont sorti 3 jeux qui n'étaient pas numérotés dans la série, donc c'est assez bizarre. Hein, ça aussi, faut le laisser.
C'est aussi compliqué que pour les Final Fantasy ou les Star Wars.
Presque. Maintenant, je vais commencer à parler de l'histoire du jeu, qui nous reste jolie, donc Secret of Mana. Donc, au début, on commence avec une cinématique qui nous explique qu'en fait, il y a longtemps, une civilisation avait réussi à utiliser la force mana pour construire l'arme ultime, le fort mana, et qu'en fait, suite à ça, il y avait une grosse guerre des dieux, et ils avaient abusé de la force mana, et donc depuis, le héros légendaire avait battu le fort mana avec l'épée de légende, était disparu, et que les légendes, au fur et à mesure, se tarissaient, qu'aujourd'hui, on vit dans le nombre de paix, mais que c'était pas forcément pour très longtemps.
La mana est toujours là.
Donc quand on commence le jeu, on incarne un héros qui en version japonaise s'appelle Randy ou Randai. Et en fait, en Europe, tu le nommes tout de suite, donc tu connais pas son vrai nom, c'est toi qui le choisis. Mais en fait, en version générale, les personnages ont des noms, donc je vais les donner de temps à autre.
C'est Randy Orton.
Non, pas du tout. On a un catcheur à côté qui sort. Et donc du coup, ce garçon orphelin vit dans un village. Il sort avec ses copains près d'une cascade et qui le font tomber de la cascade. Il arrive près d'une épée qui brille bizarrement. Il arrive à sortir de son socle. Et là, gros spoiler, s'il arrive à sortir de son socle, c'est parce qu'en fait,
c'est le roi Arthur.
Non, en fait, c'est le héros de légende. C'est le fils du héros de légende. Et là, d'un coup, ils voient un fantôme qui lui parle. Et en fait, c'est son père. Il ne le sait pas encore.
Et je suis père.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très inspiré des légendes de la table ronde,
quand même. Là, je viens comme de faire de gros spoilers.
Non, mais c'est le début du jeu, donc
c'est le début
spoiler.
Du jeu. C'est le début du jeu, mais je lui spoil quand même. Donc après ça, il retourne au village où il était anciennement. Et donc là, l'ancien, en gros, lui dit que ben, s'il a retiré l'épée, c'est qu'il va devoir assumer les conséquences. La première conséquence sera de combattre un boss, Mantis. Et après ça, et ben, il va se faire en gros bannir du village, alors qu'en fait, ils veulent plus de lui parce qu'il a brisé la paix qui régnait en enlevant l'épée mana. Alors qu'en fait, le monde est déjà en danger parce que d'autres forces veulent récupérer la force de mana qui est disséminée à travers des graines pour réussir à raviver le fort mana et dominer le monde.
Ouais. Bon, il a libéré les monstres quand même.
Voilà, en fait, il a libéré une partie des monstres, mais si tu veux, il y avait déjà un peu de grabuge qui se faisait autour. C'est que la conséquence de son bannissement. Et donc d'un coup il se met en route pour justement aller sauver le monde et rencontrer de nouveaux personnages. Donc sur sa route il va pouvoir rencontrer deux personnes qui vont l'accompagner. Une princesse blonde qui n'est pas à forte poitrine, qui elle s'appelle Poulim. Et qui c'est la princesse du royaume Pandore. Elle est secrètement amoureuse de Tom ou Dylock en version américaine, qui en fait lui est un général de l'armée de Pandore qui veut essayer d'arrêter le grand méchant qui s'appelle Thanatos, comme dans la mythologie.
C'est la mort.
Voilà, donc ça c'est le premier compagnon qu'il pourra avoir avec lui, le héros. Le second compagnon sera un elfe, et je dis bien un elfe, qui s'appelle Popoi, et qui lui par contre est un peu roublard, qui a de grosses pertes de mémoire. Enfin, quand je dis qu'il est roublard, c'est quand tu le rencontres la première fois dans le jeu, et ben il te vole ton argent pour ensuite te le rendre.
C'est vrai.
Voilà, donc là, au fur et à mesure de l'aventure, et ben tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont t'aider. Chacha, vu qu'il va te forger les sphères d'armes, Chacha va être en fait une sorte de marchand, les hommes canons qui vont pouvoir te voyager. Tu vas rencontrer Truff, un personnage qui va être le roi du royaume champignon qui va
être Truff.
Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, ils vont arriver différentes aventures. Je vais pas trop parler de l'histoire plus que ça, parce que je veux laisser aux gens la découvrir s'ils n'ont jamais découverte, ou j'ai déjà fait quelques spoilers, voilà, ça c'est fait. J'ai peut-être encore abordé le fait que dans les personnages qu'on va rencontrer, il y aura pas mal de gens de la résistance qui sont des personnages féminins forts, comme Marie ou Lola. Donc souvent, moi j'ai remarqué que dans ce genre de jeu, ils aiment bien donner aux personnages féminins des rôles de résistance forte.
C'est bien.
Des femmes de caractère.
Non, mais c'est vrai de dire que.
Oui,
ouais,
c'est vrai, tout à fait.
C'est pas tous les jours comme ça, donc voilà, c'est une bonne chose. Et en parallèle, la traduction française, parce que j'ai été traduit en français, on a des trucs un peu drôles avec des boss qui s'appellent Charty ou Rambo.
Ah ouais. Oui.
Dans l'Empire, donc voilà, c'est assez rigolo. On va en parler un petit peu. Non, je vais pas tout de suite parler du gameplay, je vais y laisser ça pour tout à l'heure. Je vais rapidement expliquer les menus. Qui sont hyper instinctifs, et en fait, contrairement à un RPG classique, tu ne seras pas 150 ans parce que tu vas très vite prendre le coup de main pour rentrer dedans et circuler. Tu vas
voir. Oui, c'est avec le système circulaire.
Voilà, tu auras différentes sphères qui vont être circulaires. Il y en a une qui va gérer les objets, une les armes, une les équipements, une la magie. Les magies ne seront disponibles que pour la fille et pour l'elfe, pas pour le héros, parce qu'il ne pourra pas en faire. Par contre, il pourra avoir de la magie sur son épée mana. Et en fait, c'est pour ça que le héros est le personnage le plus fort des trois des caractéristiques, alors que la fille et l'elfe vont être un peu plus faibles.
Pour mais taper ils les vont ennemis. Pouvoir soigner. Oui, voilà,
mais,
c'est
mais
ça.
Ils ont la magie.
J'ai un autre
compenser.
Rôle.
Voilà, donc même au niveau des points de vie ou d'autres choses, ils ont d'autres choses.
Bon, après, c'est vrai que le principe de l'arbre est pas trop invasif. Par contre, c'est vrai que quand tu joues à 3, ça peut être un peu embêtant dans ce genre de jeu de changer les magies.
Quelqu'un ouvre un menu, en fait, ça stoppe le jeu.
C'est ça. Donc c'est très frustrant.
Mais,
en fait.
Mais tu ne vas pas passer énormément de temps dans les menus. Enfin, je veux dire, ils vont être assez rapides et instinctifs.
On est d'accord. Mais ça peut être embêtant quand même. Enfin, ça peut ralentir un peu le rythme quand on joue à 3.
Voilà. Avant que je continue d'en parler plus que ça, on va écouter la musique du combat des boss.
Ça fait, on va être en danger.
Suivi en fait de la musique du son quand on gagne un combat de boss où j'ai fait un petit montage.
Voilà. Donc danger et win battle.
Move. We'll be right back.
Try Again. Try
Again. C'est toujours Try Again sur Secret of Mana. Nous étions en train de parler de la possibilité de jouer à 3. Et c'est vrai que moi je voulais dire que j'avais joué à ce jeu après une longue période où j'avais pu toucher aux jeux vidéo et je me sentais un peu noobie, un peu débutante. Et j'ai joué avec le rôle de la fille. Et je trouvais ça très rassurant, cette manière de jouer à 3, d'avoir un rôle très particulier. Donc souvent je soignais, etc. Et pour quelqu'un qui est un peu débutant, qui reprend le jeu vidéo, qui commence le jeu vidéo, j'ai trouvé ce jeu vraiment fantastique à ce niveau-là, quoi.
C'est sûr que tu fais pas le rôle du mec d'habitude.
Non, en général, si j'ai pas le choix, hein, ma foi, des fois il y a des jeux, c'est que des mecs, Léon.
Ouais. Bon, moi je vais un peu revenir sur le jeu quand même, essayer de parler un petit peu du gameplay. Alors il est simple et compliqué à la fois, je vais rapidement donner un peu les commandes. Courir avec A, taper, parler, valider avec B, accéder au menu de son personnage avec Y ou allumer un dialogue. Et avec X, on peut accéder au menu des autres personnages. Donc même si maintenant tu joues seul, tu peux très rapidement accéder au menu des autres personnages, sachant qu'en plus chacun a un petit code couleur au niveau de l'encart, donc tu sais tout de suite sur quel personnage tu es. Tu peux aussi avec L et R faire des déplacements latéraux, quand tu as une arme qui est sortie ou même dans un village, et si tu maintiens à l'air, ben tu peux même faire du moonwalk, marcher en arrière.
Ouais, ça je savais pas ça.
Parmi les petits trucs rigolos. Avec Select, on peut changer de personnage. Et avec Start, on peut prendre la partie ou sortir de la partie quand, dans un jeu à plusieurs. Seul, tu peux pas t'enlever du jeu. Et enfin, dernière manipulation que je vais déjà parler parce qu'elle est intéressante, c'est qu'avec si on appuie simultanément sur les boutons L, R, Start et Select, on fait un soft reset à la console et donc on revient à l'écran titre.
D'accord.
Ouais, des choses qu'ils ont incorporées dans pas mal de jeux après. Quoi, voilà. Ça s'est arrivé
sur PlayStation aussi. Par rapport au bouton Start, ça veut dire que sur la même partie, on peut commencer seul, puis tout d'un coup faire rentrer une personne. Puis continuer ça, pas embêté par ça.
Non. Et si on a
ça, c'est quand même génial.
Si on a un multitap, on peut même aller à 3. Ah genre, maintenant, après, tu peux alterner. S'il y en a un qui veut faire des dialogues, les autres, ils vont boire un coup. Tiens, attends, je m'enlève, l'ordinateur prend ma place, et ainsi de suite.
Ah, c'est
tu peux
super,
vraiment
ça.
C'est classe.
Et ça, c'est vraiment pas mal.
Au niveau de l'expérience, par contre, ça se passe
commun. L'expérience est commune tant que les personnages sont vivants. C'est-à-dire que tu commences le jeu avec juste Landay, qui lui, ben, va gagner de l'expérience. Une fois qu'il va acquérir un deuxième, enfin, qu'il va rencontrer un de ses compagnons, le compagnon aura forcément le niveau que lui avait à ce moment-là du jeu, il va récupérer une expérience de base. Mmh. Ok. J'ai dit des bêtises. Non, un niveau qui est prédéfini. C'est dans FF6 que tu récupères le niveau de l'autre. Non, il y a un niveau prédéfini. Et après, l'expérience est commune à tous les jeux, à tous les personnages. Par contre, il faut qu'ils soient vivants.
Alors genre, on est à 3, il y en a un qui meurt juste avant que le boss décède et
il
n'aura
pas l'XP.
C'est moche.
Par contre, il va ressusciter durant la musique qu'on a entendue avant où le boss va être... Enfin, où on aura battu le boss. Mm-hmm. Les personnages ressuscitent une fois qu'on a battu, c'est comme quand on va dormir, c'est un peu bizarre. Ils ont mis des trucs comme ça. Donc moi en fait, maintenant je vais parler un petit peu des bases à connaître pour le genre et appliquer dans l'aventure pour bien s'en sortir. Parce que selon la manière dont on va jouer, le jeu va être plus ou moins difficile. Et moi j'avoue que j'ai, enfin anecdote perso, on m'a toujours guidé dans ce jeu. Donc je vais expliquer aussi que la première fois qu'on m'a montré le jeu, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas eu envie de m'y plonger. J'avais pourtant déjà fait un petit peu Mystic Quest avant. Et alors ouais voilà, je vais même faire plus que ça. Vas-y SFL Hunter, c'est toi qui me l'as montré ce jeu. Toi qui nous écoutes, toi qui es sur le forum. La première fois que tu me l'as montré, j'étais un peu dubitatif. Et pourtant c'est grâce à toi que je l'ai acheté et j'ai toujours été guidé par toi et par d'autres personnes.
Tu es son maître.
Pour justement que voilà, ils me disaient bah ouais, notre là tu pourras faire ça, ça, ça et ça. Et ils m'ont vraiment donné des bases à appliquer dans le jeu pour avancer facilement. Et moi j'ai pas été, enfin je les ai suivis.
Bah ouais, toi t'es un hardcore alors tu mets plus.
Non, en fait j'ai suivi leurs bases et c'est vrai que du coup je me suis baladé dans le jeu. Et si tu appliques ces bases que je vais vous détailler, tu peux vraiment faire le jeu facilement. Donc les bases, ça va être sauvegarder régulièrement, suivre les dialogues entre les personnages principaux parce que t'as pas possibilité de les revoir, taper les personnages à 100% parce que quand tu tapes un coup, après t'as une barre qui charge pour arriver à 100% et faire un coup qui est maintenant à 98% va être bien moins fort qu'un coup à 100%. Alors, le pourcentage en fait est faux, il faut pas s'y baser. C'est comme le personnage a un temps de récupération, on pourra donc être un coup à fond en fait.
Mmh. Okay. D'accord.
Donc les pourcentages sont, tu t'en fous. Acheter du meilleur équipement en gros dès que possible et revendre l'ancien qui était obsolète.
Parce que ça souvent quand on croise un nouvel équipement, il est souvent directement mis, on n'a pas trop
pas
à réfléchir.
Au début du jeu c'est pas trop important, mais sur une fois qu'on a passé un tiers du jeu c'est vraiment important.
Ouais.
Et ensuite tuer surtout tous les ennemis qu'on rentre sur notre route. Voilà, prends le temps de tuer tout le monde. C'est vraiment les bases les plus simples.
Après, les ennemis, ils pop n'importe où, n'importe quand.
Ils sont prédéfinis sur la carte. À chaque fois qu'on passe quelque part, ils vont être là. Maintenant, des fois, il y en a qui apparaîtront pas parce qu'on avance un peu trop vite.
Et si on passe plusieurs fois, ils réapparaissent plusieurs fois.
Non, il faut que tu ressors de l'écran pour revenir. Une fois que ils vont pas revenir. Mais si tu changes l'écran, que tu reviens, ils vont revenir.
Oui, l'écran est plus grand que. Enfin, oui, c'est des zones. Les zones sont
c'est
plus
des
grandes
zones,
que l'écran.
Avances, voilà.
Que ce qu'on voit à l'écran. Mais après, il y a des fins de zone et on passe à une autre zone. Donc il y a une espèce de petite transition comme ça quand on sort d'une zone et qu'on va dans une autre. qui est minime, hein, c'est très rapide.
Non, c'est très rapide. Ouais, ouais. Après, il y a des bases évoluées du gameplay que je veux aussi donner. C'est penser à prendre les graines, une fois que tu peux les avoir, pour augmenter tes niveaux de magie, booster les niveaux des armes à des niveaux de magie, parce qu'en fait, tu as une évolution qui peut se faire. Sachant que l'évolution pour les magies est fixe, alors que pour les armes ne l'est pas. Pour les magies, l'évolution est très simple. Maintenant, tu es au niveau 0, tu vas utiliser une fois ta magie, ça va se compter en centièmes, tu vas gagner 9 centièmes de points. Et une fois que tu auras 100 centièmes, eh ben, ta magie sera niveau 1. Et donc, une fois qu'elle sera au niveau 1, eh ben, l'algorithme sera le même, c'est-à-dire qu'il va prendre 1 plus 0,8 centièmes. Donc, le total des deux fera toujours 9.
D'accord.
Et donc, pour passer à une fois que tu as une magie niveau 8, pour la monter à niveau 8, 99, elle va augmenter que de 1 centième. Donc, tu devras l'utiliser 99 fois pour la mettre au niveau maximal. Sachant qu'à ce moment, tu auras une limite, quoi.
D'accord. Et les armes sont aussi, donc, stables, on va dire.
Voilà, les armes ont aussi des niveaux qu'on peut augmenter. Seulement, les armes, eh ben, c'est pas du tout le même algorithme. Il n'y a pas du tout la même chose qui est prédéfinie. Et d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, il y a des gens qui pensent qu'en fait, une fois qu'on a passé le niveau 70 d'expérience, les armes ne monteront plus. Je ne suis pas d'accord, parce que moi, je l'ai expérimenté, je n'ai pas vu ça, mais on n'a jamais réussi à comprendre l'algorithme de l'évolution des armes.
Mais comme les armes, tu te rachètes des nouvelles.
Tu vas les faire monter, tu vas avoir fait ça pour rien.
Tu les rachètes pas, tu les forges.
Les armes, tu n'en achètes pas des nouvelles. En fait, quand tu tues un boss, tu gagnes une sphère d'armes qui te permet d'augmenter ton arme à un niveau supérieur si tu l'utilises. Et là, tu pourras les augmenter. Sachant que les armes, selon le niveau que tu as, elles ont une capacité spéciale. La lance niveau 3, par exemple, permettra de faire planer les ennemis. Quand ils balancent sur la tête, ils vont être paralysés.
Donc on aura plusieurs types d'armes, mais seulement une lance, une épée.
Les 8 armes principales.
On ne perd pas les évolutions.
Au début du jeu, tu gagnes les armes avec l'âge que tu récupères, puis dans des coffres. Sachant que tu commences avec l'épée, après tu as le gant, la hache, la lance, le fouet, l'arc, le javelot et le boomerang. Donc il y a 8 armes qui, elles, auront en tout et pour tout 8 évolutions possibles. Donc du niveau 0 au niveau 8. Non, même 9, pardon, 9 évolutions. Même l'épée, parce qu'on peut même avoir l'épée mana, mais j'en parlerai plus tard. Voilà pour les rudiments à savoir. Après, il y en a encore quelques trucs un peu plus retors. Pense à faire forger des armes, comme on le disait. Utiliser des coups chargés contre les boss, parce qu'en fait, une fois qu'on a monté une arme en niveau, on peut, si on maintient le bouton d'attaque, la charger et faire un coup plus puissant. Voilà, donc ça peut être pas mal.
Ça charge plusieurs barres, en fait.
Voilà, oui, c'est plus long à charger.
Oui.
Il faut savoir que quand on gagne un niveau d'expérience, on regagne tous ses points de vie, mais pas ses points de magie. Donc en fait, ta capacité de points, enfin, ton potentiel de points de vie total va être augmenté et va être un coup remis à bloc. Donc si maintenant t'es proche de passer un niveau mais que t'es faible en vie, tu te dis je m'en fous, je tue quelques ennemis, je passe un niveau, je vais pas me soigner. Ça aussi, ça peut être
utile. Tu économises comme ça tes objets.
Faut essayer d'économiser. Faut aussi savoir que si on dort à l'auberge ou après un boss, on ressuscite les morts.
Oui, c'est vrai.
Sans utiliser un objet qui permet de les ressusciter.
Oh, c'est réaliste, ça.
Donc, vous voyez, c'est comme ça que c'est pas mal.
Enfin, cela dit, les objets pour ressusciter les morts, excuse-moi, Ellie, mais niveau réalisme, pour l'instant, on est un peu limite. Hein.
Donc, voilà, je veux dire, le jeu, du coup, si on applique toutes ces bases-là, eh ben, il y aura pas mal de choses qui vont faire qu'on pourra progresser plus ou moins difficilement.
Ce qui sont souvent, d'ailleurs, les bases de la chaîne RPG.
Voilà,
quoi,
c'est ça. Mais si on les applique pas et qu'on va vouloir tracer dans le jeu, on va avoir une aventure beaucoup plus compliquée. Maintenant, il faut savoir que la difficulté évolutive hein, par rapport à ça, donc la durée de vie aussi en conséquence, et que ben le temps de jeu va aussi changer selon ce qu'on veut faire, parce que si on prend le temps de monter ses armes, ses magies, ses niveaux ou pas, on veut juste tracer. Donc ça va vraiment changer la manière d'appréhender le jeu. Et après, le jeu il a quand même pas mal de points positifs dont j'aimerais parler. Une ambiance hyper prenante avec des trucs apparemment décalés. On voit les reines du Père Noël qui demandent d'aller sauver le Père Noël. Il s'appelle Rodolphe, le reine. Il y a des musiques sublimes du début à la fin. On peut jouer à plusieurs, comme on le disait avant. Il y a une traduction française où il y a des trucs assez terribles, genre Sophie Rosset.
Couleurs, le style des personnages.
Alors,
aussi,
anecdote perso sur Sophie Rosset, à l'époque où on jouait au jeu, on avait un prof de maths au collège qui s'appelait Ross. Et donc, du coup, pour nous, quand on voyait marquer l'écran Sophie Rosset, on était juste mort de rire, quoi.
D'accord.
C'était assez énorme. C'est la petite perso.
C'est Ross Geller de Friends.
D'où grosse.
Les graphismes sont hyper variés et colorés, comme tu le disais, donc ça c'est magnifique. Il y a tout ce côté décalé des personnages. Tu parles à un chat pour sauvegarder, acheter des équipements. T'as envie en fait de chercher, de découvrir le jeu du début à la fin. Il est pas linéaire. Il est relativement linéaire, mais passé un stade dans le jeu, t'es plus libre à soi-même sur la carte. Donc,
t'as flac en ta famille, quoi.
Voilà, c'est ça. En fait, le jeu est bien pensé dans la progression. Si tu veux, le début est assez confiné. Il y a un tiers du jeu qui se fait dans la même zone où tu fais d'aller-retour, tu parles un peu aux gens.
Pour s'habituer un petit peu au style.
Pour comprendre.
Hein.
Et puis après, vraiment, ça s'envole, quoi.
Ouais, ouais. C'est pour ça que je disais, moi, quand j'ai repris le jeu vidéo, c'était vraiment le bon jeu pour reprendre, je trouve.
Le scénario est rempli de rebondissements. Il y a quasiment 40 boss.
Le jeu est long.
Ah non, Alors le jeu,
franchement,
le
non,
jeu est long.
Tu le vois pas passer.
Le jeu est long. Alors tiens, je vais répondre à une question d'auditeur par rapport à la durée de vie ou la durée du jeu. Ouais. Je t'annonce que à l'heure actuelle, tu peux trouver sur le net une vidéo qui termine le jeu. Il commence la partie, hein, il allume la console, il finit la partie en émulateur en 2h08 37 secondes.
Ah, 58
centièmes. Mais alors attention, il utilise des glitches de fou dont je parlerai plus tard. À l'inverse, le record mondial fait par un Français sur la version PAL qui lui démarre le jeu et en 8 sauvegardes, c'est en 5h15.
Ah ouais.
D'accord. Donc en finissant le jeu de manière normale.
Voilà, de manière normale. Et après ça, ben moi je dirais que selon que tu as le guide ou pas, parce que en France le jeu était vendu avec le guide, ça n'a pas le même temps de jeu si tu l'exploites ou pas. Pour quelqu'un qui va prendre le guide, le suivre de A à Z et donner et appliquer, ce que j'ai dit avant, ça va peut-être lui prendre 20 heures pour une première partie. À l'inverse, dans la notice américaine, eh ben ils annonçaient, ce que la notice américaine dit, c'est qu'il faudrait environ 70 heures de jeu pour arriver au bout si on le connaît pas et si on n'est pas guidé. Mmh. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, tout ça. Donc, effectivement, des fois, ils nous vendaient des guides avec, comme on a eu en Europe. Au moins, ils mettaient le début de la solution de la notice. Et c'était, en gros, pour t'aider à commencer dans le jeu. Et donc, selon ça aussi, ben, tu vas plus ou moins être aidé.
Mais ça passe tellement facilement, cette aventure. C'est tellement joli, tellement poétique qu'on ne voit pas le temps passer.
Non,
moi,
on voit pas le temps passer.
Bon, disons qu'après, il peut y avoir des périodes de farmage, comme on dirait, où on fait un peu monter. On fait un peu de leveling en fait, quoi. On monte de niveau, son personnage pour être un peu plus tranquille. Mais t'es pas obligé.
T'es pas obligé de les faire, mais c'est ça ce que je disais. Si tu les fais ou pas, ton temps de jeu total va changer.
Bien
donc,
sûr.
Comme nous demandait Alex, notre cher auditeur, pour le temps de jeu normal pour finir le jeu, eh ben, ça dépend de tellement de paramètres que je vais pas pouvoir en donner un. Voilà, je dirais que pour quelqu'un qui découvre le jeu, qui l'a jamais fait avant, qui connaît pas le action RPG, maximum, et je dis bien maximum, une quarantaine d'heures de jeu. Un grand maximum.
Ouais.
Si maintenant quelqu'un qui connaît le genre, qui est déjà habitué à ça, une trentaine d'heures, même s'il n'a pas fait le jeu, une trentaine, mais vraiment maxi, il arrive au bout. Ouais. Maintenant, quelqu'un avec guide, 20 heures maxi, le torche.
30 heures pour un jeu, pour un action RPG sur Super Nintendo, je trouve que c'est quand même plus qu'honorable.
Ah oui, c'est plus qu'honorable. Déjà, et honnêtement, c'est pour une première partie. Ça ne dit pas que tu auras forcément tout trouvé, tout cherché.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a une replay value avec des choses que je vais expliquer qui sont la fin du jeu. Tiens, voilà, justement, je vais en parler. La fin du jeu, en fait, comme je disais avant dans le guide, on te donne des équipements qui sont faisables, récoltables. Et comme dans beaucoup de RPG, de action RPG, eh bien, les meilleurs items, tu les récoltes à la fin du jeu en tuant des amis. Tu ne peux pas les acheter.
Comme d'habitude, quoi.
Comme d'habitude. Et donc, en fait, eh ben, tu peux les looter dans le dernier palais. Sauf quelques-uns, et je vais en parler. Donc voilà, le héros, il peut avoir un casque griffon que lui, tu récupères au Puritas et pas au Formana Volant, qui protège 145 comme casque pour le personnage. Ah oui, parce qu'il y a trois types d'équipements, en fait. Il y a des casques, des armures et des gants.
Okay. Donc ça protège différentes parties.
Ça protège différentes parties du corps. Mm-hmm. Et tu peux en équiper qu'un seul à la fois. Et tu peux en avoir en tout que 11 d'un même genre. Tu peux avoir que 11 gants, 11 armures. Pour les trois personnages inclus.
Okay.
Et donc, pour les bagues, c'est toujours la même, c'est la bague de fée qui est donnée par Maître Loup. Pour les armures, c'est la cuirasse pour le garçon qui est donnée par Génieur, ou la Hermine pour l'elfe et la fille qui est donnée par le Maître Ninja. Pour le casque, c'est le casque griffon pour le garçon qui lui se gagne dans le Puritas et pas au Formana. Et enfin, les couronnes qui sont données par l'ennemi, un ennemi qui s'appelle Terminator pour la fille et pour l'elfe. Et donc, dans ce fameux Formana, on peut aussi gagner dernière sphère d'armes, parce que si on a tout bien suivi durant le jeu, qu'on arrive au dernier palais, enfin à la fin du jeu, et bien les armes qu'on a, elles sont le gant niveau 7, la hache niveau 7, le fouet niveau 8, le boomerang niveau 8, le niveau 8, la lance niveau 8, l'arc niveau 8 et le javelot niveau 8. Donc tout au niveau 8 sauf deux armes. Et donc après il y a une rumeur qui dirait qu'en fait les deux boss qu'on rencontre dans le Formana qui eux, ne donnent pas de sphère auraient dû donner ces deux dernières sphères, mais après les sphères supplémentaires peuvent être gagnées contre des ennemis dans le Formana sauf pour l'épée.
Voilà.
Ok. Donc pour le gant c'est Maître Loup qui le donne, pour la hache c'est Satiro, pour le fouet c'est Terminator, pour le boomerang c'est Maître Ninja, pour la lance c'est Tsunami, pour l'arc c'est Metacrab et pour le javelot c'est Génieur. Et donc maintenant, comment faire pour avoir l'épée niveau 9? Deux possibilités. Première possibilité, avoir une action replay et tricher et mettre un code.
Oh.
Deuxième possibilité, utiliser un bug du jeu qui fonctionne sur les versions américaines et japonaises mais pas sur la version européenne.
Je sais pas si c'est mieux en fait.
Si, quand même.
Qui, elle, permet d'avoir l'épée niveau 9. Donc voilà, c'est un gros glitch. Alors vu qu'on a aussi des questions sur des glitches et qu'en fait j'en ai trouvé beaucoup, je vais un peu en parler maintenant. Donc voilà, pour avoir cette 9e sphère de l'épée, ce qu'il faut faire sur les versions donc américaines et japonaises du jeu, faut aller près de Polera. Et près de Polera, il y aura une toute petite île qui va être là, en forme de petit losange, qui ressemble un peu à une maison. On va se poser dessus, on va arriver chez Chacha, qui va nous proposer une sauvegarde. On va faire une sauvegarde chez Chacha, donc il faudra y arriver en volant et pas en marchant, hein, ok, parce qu'on peut y arriver en marchant. Et donc à ce moment-là, on va faire une sauvegarde sur une partie qui était autre que celle qu'on avait à l'instant, ok. Et on va quitter le jeu avec un soft reset, donc LR Start Select. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, en fait, le jeu peut friser quand on va le reprendre, enfin même va friser avec un gros écran blanc et la partie va planter, risque de perte de sauvegarde d'après ce que j'ai pu lire. Ok.
Waouh.
Et donc, une fois qu'on aura fait ce reset, on va prendre une nouvelle partie et on va enlever l'épée mana et aller au premier boss dont je parlais avant, Mantis. Et au moment où on va pouvoir commencer à se déplacer durant ce combat-là, on va refaire un soft reset avec les 4 boutons LR Start Select. Et d'un coup, on va reprendre la partie en théorie plantée qu'on a sauvegardée avant. Et comme par magie, les 3 personnages, donc non pas juste le garçon, vont arriver devant le premier boss qui a 150 points de vie et vont pouvoir le tuer. Et donc en le tuant, on va pouvoir gagner une sphère de l'épée.
C'est très space hein, comme glitch. Hein.
C'est hyper space comme bug.
Ah ouais, sur 2 parties différentes.
Voilà,
comme
sur 2
sauvegardes
que t'alternes. Et donc après, avec ce même bug, tu peux aussi revenir à des endroits que tu n'avais pas visités avant. Si maintenant tu prends d'autres sauvegardes qui sont encore. Par exemple, tu peux revenir au Puritas, tu peux squeezer le fort mana. D'ailleurs, le run dont je parlais avant en 2 heures, c'est ce que je l'ai regardé, c'est ce qu'il fait pour gagner du temps de jeu. Il squeeze un palais en fait. En utilisant ce glitch, il gagne en gros un quart d'heure en traversant pas un palais.
D'accord.
Pour aller un peu plus loin à une autre porte qui sera
incroyable comme bug.
Et donc, même en le refaisant le bug, on pourra avoir l'épée niveau 10, mais là, le jeu plante parce qu'en fait, il n'arrive pas à afficher que tu gagnes un coin de sphère de l'épée alors que tu as déjà niveau 9. Donc voilà, parmi les choses qu'on peut avoir. Donc, j'ai un peu de temps pour finir sur les glitches ou on garde ça pour après.
Bah, c'est comme tu veux, 13-4 minutes.
Comme ça t'arrange.
Bah écoute, je vais donner ma conclusion sur le jeu en général avant de continuer sur les glitches, parce que quand même une conclusion à donner, c'est que c'est un jeu classique, efficace, idéal pour commencer quand on connaît pas le genre.
Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
Et multijoueur.
Voilà, et multijoueur qui est une de ses grandes forces. Donc voilà.
Bah, surtout que multijoueur est très accessible et facilement, comme tu disais, on rentre dans le jeu, on sort du jeu.
Oui,
ça
puis
pose
si
pas
on joue
problème,
avec quelqu'un qui connaît déjà le genre, c'est génial pour se faire parrainer.
Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai refait le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Notre auditeur, un pru, qui a aussi posé des questions, et ben lui, j'ai refait le jeu avec lui et moi, je l'ai guidé du début à la fin. Et des fois, j'en avais marre un peu de le guider, je me sortais du jeu et je laissais faire les dialogues pour qu'il découvre le jeu. Tu vois, moi, j'étais là pour lui dire, ouais, maintenant, on va là. Mais c'est l'objectif que moi, j'avais quand j'ai refait le jeu avec lui, c'était de lui faire découvrir. C'était pas, tu vois, forcément qu'on le refaire pour en parler aujourd'hui.
Ouais.
Il y a les deux côtés.
Mais il y a des joueurs qui sont un peu comme moi, qui sont un peu joueurs passifs et qui aiment bien,
regarder,
être trimballés, tu vois. Ouais. Donc le perso 2, il est génial.
C'est vrai, c'est quand même sympa de jouer avec un autre joueur humain, parce que des fois, quand même, l'intelligence artificielle des autres.
Il reste coincé.
Pour revenir à ça, dans le run du français qui a été fait en 5h15, il expliquait que parfois il prenait des chemins un peu bizarres et qu'il se faisait taper pour justement pas coincer les personnages.
Ouais.
Et donc par rapport à ça, tu peux aussi paramétrer si tu veux que tes personnages aillent vers les ennemis ou restent en retrait.
Oui, c'est vrai. Oui,
et donc maintenant, je vais revenir sur les glitches, parce que moi j'étais parti sur les glitches. Parmi les glitches un peu rigolos, on peut avoir la fille en double.
Ah ouais, sympa.
Alors, on rêve de ça.
Et on peut surtout avoir un niveau d'arme qui bug et très rapidement dans le jeu faire des coups très forts alors qu'on n'a pas la puissance. Pour cela, en fait, il faut avoir même une arme niveau 2, au hasard l'épée, vu que c'est la première arme qu'on peut avoir niveau 2. Et donc, en fait, ce que tu vas faire, tu vas l'équiper à un personnage qui ne sera pas contrôlé par un humain mais par l'ordinateur. Tu vas lui demander de monter son arme niveau 2 parce que tu peux lui demander que il tape à quel niveau il veut taper. Donc, il faut qu'il ait niveau 2 et taper avec niveau 2. Et une fois qu'il sera niveau 2, tu vas retourner dans son menu. Et là, tu vas lui demander de faire du niveau 1. Et là, d'un coup, le compteur de niveau va commencer à bugger. Il va avoir des trucs un peu spéciaux. Et il va lâcher un gros coup, genre un niveau 8, qui va faire plus de 900 de dégâts. Et donc, tu peux l'exploiter avec les personnages non-joueurs. C'est-à-dire que même seul, une fois que tu as 3 personnages, tu peux, avec 2 persos, faire des coups à plus de 900, alors qu'en fait, tu as un niveau faible, et tuer les boss en un rien de temps.
Ouais, c'est clair.
Donc ça, c'est un glitch de malade.
Et ça marche sur toutes les versions.
Toutes les versions, ils fonctionnent.
Il faut un peu peur vos bugs quand même. Hein,
après, il y a le bug du fouet niveau 5. Alors quand on a le fouet, en fait, des fois, il y a des spots. Tu vas près du spot, et d'un coup, le personnage va s'avancer. Tu mets un coup de fouet, il va traverser, aller en face.
Ouais.
Seulement, quand tu as le fouet niveau 5, si tu charges niveau 5, tu vas donc sur le spot, tu regardes la direction vers laquelle tu veux aller. Il va faire 5 coups de fouet, et après, il va faire un saut dans la direction où tu regardais. Donc pas forcément là où le fouet t'emmenait. Donc tu peux aller en haut, en bas, à droite, à gauche, absolument n'importe où. Et donc c'est des endroits que tu ne pouvais pas atteindre normalement. Tu peux faire pareil avec l'épée niveau 1 en la chargeant et dans un coup pour traverser le vide. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on récupère la fille en double au début du jeu. En fait, il y a un endroit où on va passer avec le fouet. Et si on prend l'épée niveau 1 et qu'on fait un coup pour aller dans le vide, et on peut traverser cet endroit-là pour récupérer d'abord l'elfe et après la fille. D'ailleurs, quand on récupère la fille en double, il y a une cinématique, c'est pas une cinématique, c'est une scène où ils sont normalement captés dans un pot. D'un coup, tu peux pousser les ennemis qui sont autour, c'est hilarant.
Attendez, tous ces glitches, ils ont été prévus ou pas du tout?
Je sais pas,
c'est quand même incroyable.
Je mettrai des vidéos liens pour ceux que ça intéresse. Je vais encore rapidement parler de l'armée, parce que l'armée, c'est un gros spoiler. Non, j'en parlerai après de l'armée. L'armée, je vais le garder pour. Quand on revient après la musique, parce que c'est un truc que les gens ils veulent savoir. Donc voilà, on peut tuer encore Jojo, on peut éviter des magies avec 2 fois un objet, on peut faire plein d'autres choses. Donc il y a plein de glitches qui existent. On peut aussi friser le jeu parce que moi les personnages disparaissent. Donc maintenant il y a un personnage qui doit disparaître, la fille, et donc si les autres personnages sont morts, et le jeu est planté. Oui. On peut faire planter le jeu.
Je sais pas si c'est le but premier, mais enfin bon. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que Secret of Mana a rendu un peu Martin très romantique, je trouve, puisque les prochaines musiques qu'on écoute, c'est Cérémonie et Live Time for Love.
M57. Un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
Hits and Move.
Hits and Move.
Voilà déjà dans notre reload. Avant de redonner la parole, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, le Try Again, le Facebook de Try Again, le Facebook individuel et surtout sur notre forum qui est très vivant, je trouve. On a mis le jeu du screenshot, etc. Donc on s'amuse bien dessus, où vous pouvez aussi réagir. www.forumtryagain.com. Et je redonne tout de suite la parole aux garçons parce qu'ils ont encore plein de choses à dire.
Moi je veux d'abord préciser que les musiques qu'on a entendues c'était celles des Ruines Pandore et Formana, donc c'est des musiques qui devraient parler aux gens qui sont allés jusqu'au bout du jeu, et qu'après on va écouter deux musiques qui sont de la fin du jeu avec un petit montage qui sera peut-être brutal pour certains, mais la musique coupe net en fait. Donc je l'ai pas fait un montage brutal, c'est que la musique à un moment coupe
c'est
net
d'origine.
Et qu'après je repars sur quelque chose de plus tranquille pour finir. Voilà.
Avance que dans Vrac.
Avance que dans Vrac.
Voilà. Moi, dans la partie Reloaded, je voulais vous parler un petit peu de Seiken Densetsu 3, donc qui est la suite directe de Secret of Mana. Mais je vais d'abord poser une question.
Deux petites questions d'auditeur peut-être pour commencer.
Petite question d'auditeur. Pourquoi ce jeu n'a-t-il jamais été porté sur d'autres consoles?
Alors c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est que en Europe à l'époque, on jugeait que le genre RPG n'était pas fait pour nous. Et donc les rares jeux qu'on a eus sont toujours passés d'abord par aux États-Unis. C'est-à-dire que le circuit habituel c'était Japon, États-Unis, Europe. Europe avec de la chance.
Ouais, okay, on est toujours les points.
Et donc en fait, Seiken Densetsu 3, il n'a jamais été prévu aux États-Unis. Et donc du coup, nous on l'a jamais eu. C'est ça le problème. Il y a quelques exceptions à la règle, comme certains pourront dire Terranigma, DBZ2 dont j'avais parlé, mais c'est vraiment très 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 rare. Donc c'est pour ça qu'en fait on l'a pas eu, parce que la traduction française est basée sur la traduction américaine.
Ah oui, oui, très souvent.
Bah oui, c'est le cas.
C'est plus simple.
Ouais, voilà. D'où les nombreux contresens et les erreurs qu'on a des fois dans les traductions. Voilà. Quoi, mais bon.
Ouais, alors j'ai une autre question de SFL Hunter cette fois-ci. Pourquoi avoir viré le armée des versions européennes ?
Alors justement, c'est ce que j'évoquais rapidement avant. L'armée, en fait, c'est un équipement qui a fait un buzz en France parce que dans la solution qui était fournie avec, à la fin, il y avait la liste de tous les équipements qu'on pouvait avoir. Il y avait marqué lieu secret sans donner contre-valeur. Et en fait, l'armée est un casque uniquement portable pour la fille qui donne 46 de défense et qui, à la base, aurait dû être acheté, enfin, qu'on aurait pu acheter à la Mandala, qui était en gros vers deux tiers du jeu. Et s'ils l'ont viré, c'est parce qu'il y avait un bug de programmation. Et donc, ils ont corrigé ce bug de la version américaine et de la version européenne. Néanmoins, ils avaient déjà traduit des notices par rapport à la version japonaise. Et donc, du coup, dans la version américaine, la notice, tu verras un point d'interrogation entre un équipement qui fait 35 et 55, donc c'est une place logique, sans donner de précision. Et en version française, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre à la fin avec marqué lieu secret. Alors, pour donner encore plus de détails, l'armée existe réellement. On peut l'avoir avec Action Replay. Et qui plus est, il y a une vidéo allemande qui traîne sur YouTube, où on voit un personnage qui le gagne dans le format nain en tuant un Terminator en lootant dans un coffre. Donc je mettrai le lien pour cette vidéo, mais je pense qu'en fait elle a été faite avec un code Action Replay pour le looter depuis le coffre.
Ouais, d'accord.
Okay, ouais. Ça a dû ça, c'est donner naissance à ouais. plein de voilà. rumeurs.
Mais du coup, en fait, ça a fait un gros buzz. Ce truc-là, il y a encore d'autres choses qui ont fait des buzz sur le jeu. Donc je voulais en parler aussi rapidement. Parmi les glitches qu'il y a, on peut traverser des PNJ. Normalement, si on ne peut pas retourner au Amopoto, on se fait bannir au
PNJ,
début du jeu.
PNJ, Martin ?
Personnage non jouable. Et donc en fait, quand on peut changer de personnage avec Select, on fait O plus Select et on peut traverser des personnages. On peut donc revenir. Mais ça marche plus avec haut qu'avec bas. Avec bas, ça marche, mais c'est beaucoup plus aléatoire. Et alors, dernière astuce que j'ai envie de donner aux gens, rubrique truc et astuce aujourd'hui, on peut faire apparaître à l'écran, à la place des compteurs en bas pour le niveau d'armes et des points de vie, NAS, les trois lettres du programmeur Nazir. Alors, pour cela, c'est dans une zone où on peut avoir les armes en main. Il faut maintenir O, A et L comme bouton. Pendant ce temps-là, il faut appuyer 39 fois sur le bouton R. Il faut relâcher A et L. Et appuyer une dernière fois sur R, et là d'un coup, il y aura apparaît le petit NAS en bas.
Ça ressemble un petit peu à s'enrouler dans du jambon et danser à la pleine lune.
Ouais, mais là, ça sert à rien, mais ça existe. Et je voulais le dire, voilà, dans les trucs un peu rigolos qu'on pouvait faire. Là, j'en ai quasiment fait le tour. Voilà,
il y a marqué quoi, c'est naze.
Voilà.
Ok. Pour revenir un petit peu à Seiken Densetsu 3, donc la suite directe, je le rappelle. C'est un jeu qui est sorti en 1995, qui a été développé par Squaresoft, donc c'est aussi un action RPG. Malheureusement, il n'a jamais dépassé les frontières du Japon. Ça, c'est vraiment dommage, on le regrette énormément.
Heureusement pour nous, il existe une fan trad.
Ouais, il y a eu une traduction qui a été faite par des fans, par Terminus Traduction, et qui est très très bien faite et qu'on peut trouver en ROM pour jouer en émulateur.
Ou même sur cartouche, comme je l'ai fait.
Ouais. Bon, ça c'est plus compliqué que se procurer la cartouche, mais.
Bah, moi je l'ai fait en français sur console,
c'est du
moi j'ai fait
officiel.
Les trois premiers. Ouais, mais bon, ça donne toujours envie quoi.
Ouais. Alors, c'est vraiment un des actions RPG les plus réputées de la console, hein. Tu ne me contrediras pas, je pense.
Non, pas vraiment. Maintenant, après, c'est une question de goût.
Ouais. Alors, il faut choisir trois persos au début du jeu.
Parmi six.
Ouais, parmi six. Ils ont des histoires tous différentes. En fait, c'est surtout le début du jeu qui va beaucoup changer selon la personne que tu vas prendre. Après, c'est un tout petit peu plus linéaire,
alors,
je crois.
Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Moi, le jeu, je l'ai fait qu'une seule fois, mais après, je me suis beaucoup documenté dessus. Donc, il n'y a pas que le début du jeu. Il y a les boss de fin. Il y a trois boss de fin différents. Mmh. Après, il y a les interactions entre les personnages. Il y en a certains qui peuvent tomber amoureux ensemble si tu les as mis. Et c'est surtout le personnage principal que tu vas prendre, si tu veux, dans les six personnages, il y a en gros deux groupes de trois. Mmh. Et selon à chaque fois ces groupes de trois là, en fait, il y a trois scénarios principaux distincts que tu pourras avoir. Donc tu n'auras pas les mêmes choses à faire. Donc
là,
en fait,
c'est sympa ça. Comme
au niveau de la replay value du jeu, elle est beaucoup plus importante que Mana, parce que justement, tu peux redécouvrir le jeu avec d'autres ambiances, voir d'autres univers. Donc selon le premier personnage que tu prendras, c'est toujours le personnage principal sur lequel l'histoire va être axée, mais les deux suivants vont aussi interférer.
Mais généralement, le but du jeu, c'est toujours de trouver les pierres mana pour sauver la déesse Manié et le monde.
Entre autres. Et
Ouais, tu sais pas. Je te dis pas trop, là.
Non, pas trop, mais bon, un peu quand même.
Bon, c'est classique, mais après, avec tous les différentes fins, en fonction des personnages...
Et les personnages et leurs évolutions, parce que dans Seiken 3, en fait, tu peux récupérer des objets et après les appliquer sur les personnages pour qu'ils changent graphiquement et qu'ils aient de nouvelles compétences et même des caractéristiques. Mm-hmm. Parce que dans Seiken 3, il y a aussi beaucoup de choses qui reviennent par rapport à Seiken 1, comme quand tu passes un niveau, tu choisis où tu veux mettre les points que tu gagnes, ah, en force, d'accord. en défense, ainsi
ouais,
de
donc
suite.
T'as un peu plus de liberté sur l'affectation
mana, t'en as aucune, hein, c'est automatique.
Ouais, donc c'est ça.
C'est un jeu qui est réputé pour avoir beaucoup de rebondissements scénaristiques.
C'est vrai.
Et beaucoup de possibilités intéressantes. Dans les différents scénarios, c'est sauver un frère ou alors se venger du méchant. Ça varie quand même pas mal selon les personnages.
La vengeance, ça revient dans beaucoup de jeux vidéo. Hein.
C'est un classique. Hein.
Ah ouais.
Alors c'est un jeu, quand j'étais petit, je me souviens, on faisait Secret of Mana. Et une fois qu'on avait bouclé le jeu, on bavait dans la vitrine devant Seiken Densetsu 3 qui était hors de prix, qui était en japonais en plus, on n'allait pas l'acheter. On disait, ah, j'espère qu'il sortira chez
puis
nous.
Puis les magazines
jour.
En parlaient partout, même sur les covers, ils marquaient Mana 2 et tout avec des previews. Et vu qu'il n'est pas prêté, prévu pas au States, on n'a pas eu en drop quoi. Donc,
Ouais, ouais.
Alors, c'est moche, mais c'est comme ça.
Pauvres petits européens brimés quand même, quoi. Franchement.
On n'a jamais de chance. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont identiques à Seiken Densetsu 2, c'est-à-dire Secret of Mana. Mais il y a aussi des choses qui changent.
Ouais, notamment le nombre de joueurs en fait. J'ai vérifié
notre
info. En fait, on peut jouer qu'à deux joueurs dans Seiken Densetsu 3.
Et non plus 3.
Et par contre, j'ai vu qu'il existait maintenant une version ROM modifiée permettant de jouer à 3 joueurs comme dans Seiken Densetsu 2.
Oh, classe.
Donc, ils ont carrément modifié le jeu.
Ils ont fait pareil pour Evermore pour jouer à 2.
Et sur ta cartouche, on peut jouer à 3 alors ou à 2?
Non, je crois qu'on peut jouer qu'à 2. Par contre, dans Seiken 3, il y a aussi un truc qui revient par rapport à Seiken 1. C'est enfin. Même quand j'en parlais avant, c'est quand tu tapes un ennemi, t'as donc une barre pour revenir à 100%. Mm-hmm. Et ben ça, en fait, c'est quelque part un peu une marque de fabrique de la série des Seiken, parce que dans Seiken 1, t'avais une barre, enfin, qui se remplissait au bas de l'écran, et une fois qu'elle était à fond, tu donnais un coup, tu traversais l'écran, un super coup puissant.
Mm-hmm.
Dans Secret of Mana, et ben en fait, tu attends que ça soit 100%, mais un coup juste fort. Mm-hmm. Et dans Seiken Densetsu 3, en fait, selon tes niveaux, tu vas avoir des petites barres à côté du personnage en bas qui vont augmenter de couleur, d'abord bleu, puis vert, puis jaune, puis rouge. Et celui-ci, en fait, tu l'attends qu'elle soit à fond, tu vas donner un super coup. Et donc c'est le même principe.
Ouais, je crois qu'il faut faire 4 coups réussis pour déclencher le spécial et 7 coups réussis pour déclencher le super spécial, mais c'est pas tout au début du jeu ça.
Ouais, mais en fait c'est pas, enfin, il y a de ça, il y a pas de ça, c'est qu'en fait dans Seiken 3, t'as plus cette barre de attendre. Mm-hmm. Attendre, c'est juste pour faire un méga gros coup quand mm-hmm. tu as cette possibilité d'avoir une barre qui augmente, mais sinon ben t'as juste à bourriner de boutons quoi, tu peux comme dans un Zelda vraiment bourriner des ennemis quoi, c'est un jeu de bourrin.
Ouais. Mais quand tu joues seul, quand il y a des ennemis, si tu fais juste j'ai lu quelque part que les persos attaquaient automatiquement les ennemis.
Les autres, ouais.
Donc parce ça, c'est un peu moins stratégique, on va dire.
Oui, mais tu peux pas les paramétrer comme dans Mana pour leur dire maintenant, toi, je veux que tu sois en arrière ou ainsi. Ah, si, je crois qu'il y a une grille, mais elle marche beaucoup moins bien que Mana.
Ouais, ouais. Bon, si on est un peu
sur cette grille,
malhabile dans les jeux vidéo, on peut faire ce petit tips pour se débarrasser des ennemis plus facilement. Alors, c'est un des jeux les plus jolis de la console qui utilise notamment le mode 7.
Pour les phases de vol.
Ouais, alors, il y a le bateau dans l'introduction, il y a la tortue, il y a le dragon aussi. Comme dans Secret of Mana, on trouve le dragon, on peut se déplacer un petit peu partout. D'ailleurs, on peut atterrir, mais c'est un petit peu plus délicat, je crois.
Pourquoi ?
Je sais pas, ce que j'ai vu sur internet.
Non.
Non ? Il n'y avait pas de spécificité là-dessus ?
Il y a des zones où tu peux atterrir, d'autres non, je pense.
Bah, comme dans Mana.
Comme dans Mana, quoi. Ouais. C'est, ouais.
Mais d'ailleurs, l'atterrissage se fait tout seul, on dit juste qu'on va atterrir dans Mana.
Non, il faut que tu descendes avec A.
Ouais. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de truc technique à faire, tu ne peux pas t'écraser.
Ouais, mais il y a des endroits où tu peux atterrir, genre dans l'eau, dans les montagnes, il y a des endroits, il faut que tu sois à un spot précis.
Sur un spot, il y a pour atterrir, ouais, voilà. T'as une map en bas et puis t'atterris là où il y a une zone d'atterrissage, entre guillemets, quoi, si je puis dire.
Ouais. On a encore le temps pour une petite question ?
Une dernière.
Alors, Castle Hunter, encore, notre ami. Alors pourquoi avoir choisi le téléphone portable pour son retour alors que la grande force était le jeu à 3, je parle de Secret of Mana, et que cette version, c'est pas possible de le faire forcément?
Eh ben tout simplement parce qu'en fait, comme je l'expliquais avant, au Japon en 2006, ils ont eu et Seiken 4 et une autre version sur portable, et donc je pense que ben dans la lignée de ça, ils ont aussi ressorti tout sur mobile au Japon. Que ce soit le premier Seiken sur Game Boy qu'on avait eu, ils ont tous ressorti sur téléphone portable, et donc je pense qu'on va dans l'optique de tous les refaire dessus.
Ouais.
De toute façon, tout sort portable en ce moment, donc en fait, ils les ont pris dans l'ordre
et ils continuent. Ils ont fait d'abord un petit premier en 2006 qui marchait bien, ils ont vu que ça marchait, ils ont remis le premier, là ils mettent le deuxième et ainsi de suite. Donc je pense qu'ils vont faire toute la saga. Je sais pas quand ils vont y arriver. Est-ce que j'ai 5 secondes pour dire que à la fin du mois, 5 secondes, je serai au Stunfest, sûrement à Rennes, du 29 avril au 1er mai, et que pour toute information, eh ben, on pourra nous rencontrer là-bas, pour ceux qui font le déplacement, avec moi, pas forcément tout le monde de l'équipe, mais ceux qui peuvent. Voilà. Et ce sera une super compétition de jeux vidéo récents et rétro, et que c'est bien.
Ouais, n'hésitez pas, ça a l'air super bien organisé, donc on refera la pub. Hein.
Voilà, j'en ferai de la pub après.
Voilà, et puis nous, bah, malheureusement, c'est encore un nouveau numéro de Toy Again qui se finit, qui s'achève. On se quitte avec The Oracle and No Flyless Wings, toujours de Kikuta Hiroki. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre contexte, c'est Mario Tennis sur Nintendo 64 et sur le forum Les Chevaliers Baphomet sur PS avec Clo qui était venu en parler.
C'est le podcast.
Sur le podcast. Voilà. Bisous à tout le monde.
Ciao ciao, à la semaine prochaine.
Salut, salut à
la semaine
tous. Prochaine.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Thank you. Génération Prestart. Génération Prestart. Game over.